Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis aujourd'hui en présence d'Aude Guéguen. Aude, bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences au CNAM. Vous êtes spécialiste de la théorie critique et de l'histoire du néolibéralisme, entre autres. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. J'en mentionne un parce qu'il m'avait énormément marqué, La perspective du possible, que vous aviez publié il y a peut-être 3 ans aux éditions de La Découverte avec Laurent Jean-Pierre. Et je vous reçois aujourd'hui pour un nouveau livre que vous signez seul cette fois-ci, consacré à Herbert Marcuse, Face au néofascisme aux éditions Amsterdam. Alors, ça va être l'occasion, grâce à vous et grâce à ce livre, de découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaîtraient déjà, la pensée de Marcuse. Pensée qui, dites-vous, d'une très élégante formule, est d'un haut coefficient d'actualité. Voilà, une pensée Marcuse donc, qui s'est éteinte il y a déjà un demi-siècle quasiment, mais voilà, une pensée qui reste extrêmement d'actualité et qui, alors je résume vraiment à l'appel, mais il y a 3 idées extrêmement fortes qui, je trouve, continuent de nous parler, comme vous le dites. La première, ça va être l'objet de beaucoup de nos discussions, c'est celle que le fascisme n'est pas une relique du passé. La deuxième, l'idée que la véritable alternative au fascisme, et la seule finalement alternative au fascisme, elle se trouve du côté de la Révolution. Et troisième idée, tout ça est lié, c'est que la Révolution, pour être opérante face au fascisme, elle doit se placer sur son terrain, c'est-à-dire pas seulement le terrain de l'économie, mais celui de la subjectivité et celui des désirs. Alors avant de plonger, et puis vous me corrigerez voilà, si j'ai dit des bêtises ou des approximations, mais avant de nous plonger dans la pensée de ce philosophe, je vous propose qu'on commence par peut-être restituer les principaux éléments, on ne va pas pouvoir tout faire, mais de sa vie, de sa biographie, pour que celles et ceux qui nous écoutent sachent un petit peu peut-être ce qu'il y a à savoir sur le personnage, donc 1998-1900, la date de…
79,
date de décès. Voilà, je vous laisse nous dire ensuite peut-être
ouais.
Ce qu'il y a de marquant.
Ok. D'abord, merci beaucoup, Manuel, pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Alors oui, qui est Herbert Marcuse? Grande question. Herbert Marcuse, c'est, comme vous venez de le rappeler, un auteur qui naît en 98 en Allemagne, à Berlin, dans un milieu juif assimilé de la très haute bourgeoisie. C'est quelqu'un qui s'engage, après 1917, disons, du côté vraiment de mouvement spartakiste, qui est actif dans les conseils de soldats à Berlin, pendant la Révolution allemande, et qui va finalement rompre très clairement avec toute forme de social-démocratie, de SPD par exemple, suite à l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et qui à partir de là va précisément prendre conscience qu'au fond, aucune réponse, aucune solution, aucune stratégie politique n'est envisageable si elle n'est pas radicalement révolutionnaire. Et donc aucun compromis avec des partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, et surtout pas avec la social-démocratie. Alors à partir de là, Marcuse ne cessera d'avoir cet engagement qui est à la fois politique, mais également intellectuel, c'est un philosophe, philosophe social, politique, mais également esthétique, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'art, on y reviendra peut-être, notamment sur le surréalisme. Et c'est un auteur qui en 1933, va s'exiler, évidemment, suite à l'accès de Hitler au pouvoir, et va d'abord aller à Genève, rejoindre Horkheimer et l'école de Francfort, donc la théorie critique, puis aura la chance de pouvoir s'exiler dès 1934 aux États-Unis, à New York, où l'école de Francfort va être accueillie par la Columbia University. Il va tout de suite demander la nationalité américaine, qu'il obtiendra en 41, je crois. Et pour pouvoir survivre, vivre et trouver un travail, il va à un moment donné devoir, à partir, je crois, de 39, en gros, travailler pour les services secrets américains. Alors ça, c'est un gros dossier que je n'ai pas véritablement, d'ailleurs, creusé dans le livre, mais qui est passionnant.
Que vous mentionnez.
Que je mentionne, oui. Le travail de Marcuse, à la fois pour différents départements des services secrets, dans lesquels, d'ailleurs, il va rédiger des textes extrêmement importants d'analyse du fascisme allemand.
Oui, parce que c'est pour cette tâche-là, essentiellement, qu'on le recrute.
Qu'on le recrute, voilà. Et c'est des textes extrêmement substantiels, qui ont été rédigés par Marcuse aussi grâce à l'accès à un matériel extrêmement riche, quoi, avec, à la fois des articles de journaux, des espionnages. Enfin bon, c'est des textes extrêmement intéressants. Mais en tous les cas, voilà, c'est un moment de sa vie important, ce passage par les services secrets américains, qu'il quitte. Il démissionne en 1951, au début du McCarthyisme. Et au début des années 50, il ouvre un nouveau cycle de recherche qui va aboutir à Eros et civilisation, qu'il commence en vérité bien avant, mais bon, qui est publié en 1955. Et puis, il va devenir un auteur…
C'est pas son premier livre, mais c'est peut-être le livre qui l'impose sur une scène plus large que celle à laquelle, disons, sur laquelle ses écrits étaient diffusés auparavant, Eros et civilisation. Est-ce qu'on peut dire que ça le fait connaître, que ça ne…
Pas véritablement. En réalité, le livre qui va vraiment le faire connaître d'un large public, c'est L'homme unidimensionnel, qui paraît en 1964, ouais. Et qui va avoir une grande audience, à la fois pour le mouvement étudiant aux États-Unis, puis en France, même si on connaît l'anecdote des 68ards, notamment Cohn-Bendit, qui disait, bon, Marcuse, c'est qui ? Bon. Donc il ne faut pas non plus exagérer, en réalité, l'influence de Marcuse et de L'homme unidimensionnel sur ces mouvements. Mais il y a quand même, on y reviendra sans doute aussi, évidemment, il y a une importance très grande de Marcuse et de sa pensée, après plutôt d'ailleurs L'homme unidimensionnel, et d'ailleurs plutôt avec l'Eros civilisation, raison pour laquelle d'ailleurs c'est un ouvrage que j'approfondis beaucoup plus, oui. Sur lequel je me suis beaucoup plus centrée que sur L'homme unidimensionnel, oui. Et qui ouvre donc un nouveau cycle à partir de 67, disons. Marcuse va adopter un type de positionnement qui va être celui d'un intellectuel engagé, pour le dire ainsi. Et il va donc écrire un certain nombre de textes, certains qui sont des petits livres, mais en réalité qui résultent toujours d'interventions, notamment à l'Université libre de Berlin, La fin de l'utopie, Vers la libération, puis ensuite, mais sur une note un petit peu différente, puisque c'est un texte qui est déjà beaucoup plus inquiet, Contre révolution et révolte. Voilà, donc en gros, à partir de 67, Marcuse devient une figure importante et même centrale de la gauche radicale, de la New Left. Et là, il a une audience mondiale.
Eh ben, merci beaucoup. Ça indique les grands jalons et on va les reprendre un à un. Mais peut-être avant quand même, je voudrais que vous nous précisiez aussi un élément. Le sous-titre du livre, je ne sais pas, je l'ai dit, mais peut-être un peu rapidement, c'est « Face au néofascisme ». Pourquoi avoir mis la focale là-dessus, sachant que sa pensée est foisonnante, qu'il y a de nombreux thèmes? Et pourquoi est-ce que c'est à partir de cette ficelle-là, en fait, que vous reconstruisez les principaux éléments de sa pensée, de sa trajectoire?
Oui, alors bon, il y a différentes raisons, il y a au moins deux raisons. La première, et là aussi je pense qu'on y reviendra, c'est le projet même d'avoir voulu faire un livre sur Marcuse aujourd'hui tient à notre actualité, et donc c'était aussi parler d'aujourd'hui. Alors ensuite, il y a une seconde raison qui est plus importante encore en réalité, c'est que Marcuse lui-même utilise très régulièrement la catégorie de néofascisme. Et cela en particulier, dès après la Seconde Guerre mondiale, dans des textes dans lesquels Marcuse dit qu'au fond le danger du fascisme, la possibilité du fascisme ne meurt pas, ne cesse pas du tout avec le fascisme historique. Et donc chez Marcuse, il y a toute une réflexion vraiment sur ce qu'il appelle lui-même, je reprends en réalité son propre terme. Le néofascisme, le nouveau fascisme, le germe ou la possibilité d'un néofascisme. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette idée de Marcuse, c'est plusieurs choses. C'est d'abord l'idée qu'il y a quelque chose comme une mutabilité ou une malléabilité du fascisme.
Qu'on ne doit donc pas cantonner à sa forme historique en Italie.
Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, par rapport à tout le débat contemporain sur la question de savoir si on peut, s'il est légitime ou non d'utiliser la catégorie de fascisme ou néofascisme, bon, Marcuse était très clair. Au fond, dès après la Seconde Guerre mondiale, pour lui, le fascisme n'était pas quelque chose du passé. C'était une virtualité constante du capitalisme lui-même. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec Marcuse, c'est que Marcuse n'est pas quelqu'un, évidemment, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas ignorant ou oublieux de l'histoire. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est un auteur qui a travaillé de très près sur le fascisme allemand. Oui. Et donc, Marcuse a vraiment une réflexion extrêmement intéressante sur le fascisme et les processus de fascisation. Et Marcuse fait vraiment partie de ces auteurs pour qui le fascisme est une virtualité du capitalisme, mais également une virtualité du libéralisme lui-même.
Oui, et de la démocratie libérale. Et c'est quoi les éléments justement qui, dans la démocratie libérale, peuvent, parce qu'on est bien sur des potentialités, évidemment pas, il n'y a pas de lien de fatalité ou de causalisme strict, mais c'est quoi les éléments qui, dans la démocratie libérale, dans la société de consommation, peuvent générer du fascisme sous une forme, certes, du coup, différente de celle qu'on a pu connaître par le passé, mais quand même du fascisme, du néo-fascisme.
Alors, il y a différentes choses. En fait, Marcuse, avec son collègue Horkheimer, commence dès à partir de la fin des années 20 en Allemagne, donc au moment de l'ascension du national-socialisme dans le mouvement ouvrier allemand, sous l'Allemagne de Weimar, à réfléchir à reprendre la question marxiste de la Révolution, mais avec une attention beaucoup plus grande au processus psychique, au processus subjectif. Et c'est là, évidemment, aussi le sens de l'articulation de Marx et Freud.
Oui, on va revenir sur Eros et civilisation, notamment, mais allez-y. Ouais.
Et donc, pour Marcuse comme pour Horkheimer, il y a tout un travail à faire du côté de ce qu'ils appellent une anthropologie de l'homme libéral ou du libéralisme, enfin, de l'époque bourgeoise. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui, avec l'aide donc, de plein de références, mais notamment donc, Max Weber, cherche à comprendre comment une certaine forme de rationalité va devenir dominante. Et cette rationalité, c'est bien entendu la rationalité instrumentale. Cette rationalité instrumentale, pour Marcuse comme pour Adorno, elle est constitutive de l'individu libéral, c'est-à-dire d'un individu qui se doit d'être concurrentiel. Et ce, au fond, dès les débuts du libéralisme. Et non, c'est l'un des germes, au fond, libéraux du fascisme. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi cette idée qu'il élabore au contact de ce qu'il appelle, un peu dans le sillage de Lukács, la philosophie bourgeoise, de l'idéalisme. Cette restriction de la pensée critique, de la rationalité critique, à la sphère strictement privée, et au contraire, dans le domaine de la réalité sociale, l'acceptation résignée d'une forme de domination sociale. Donc ça, pour Marcuse, ce sont vraiment des éléments qui sont constitutifs du libéralisme et qui sont très importants pour comprendre pour quelles raisons il y a quelque chose comme un destin, c'est un terme qu'il utilise régulièrement, une forme de tendance au fond propre au libéralisme lui-même à se muer en son contraire.
Oui.
Et ça, c'est une idée qu'il développe très tôt dans un texte de 1934, cette idée que dans le national-socialisme, mais en réalité dès la révolution conservatrice allemande, il y a une critique radicale des idées de 1789, et que ce refus du libéralisme, ou cette abolition du libéralisme, est d'une certaine manière comprise en germe dans le libéralisme lui-même, du fait de ce que ses auteurs, de manière très marxiste, appellent ses propres contradictions internes.
Et alors, dans la trajectoire de pensée de Marcuse, il y a un livre vraiment important que vous avez mentionné, hein, « Héros et civilisation », livre à l'intitulé déjà très, très freudien. En quoi ce livre, il est important? On le résume parfois, et peut-être un peu trop rapidement, c'est vous qui allez nous dire, mais l'un des jalons importants de ce qu'on appelle le freudo-marxisme. Bon, l'idée d'un nouage entre Freud et Marx, elle est là. En quoi il est important ce nouage, et qu'est-ce que ça nous apporte, sachant bien quand même, il faut le préciser, que ça ne va pas de soi, en fait, ce rapprochement. Pour beaucoup de freudiens, comme pour beaucoup de marxistes, c'est presque une hérésie, en fait, de faire travailler conjointement ces deux auteurs. Donc, pourquoi et comment Marcuse, il opère ce nouage?
Alors, il y a différentes raisons. Effectivement, vous l'avez dit, c'est pas évident, et en même temps, c'est une tradition. C'est pour ça, il ne s'agit pas pour moi de récuser radicalement la catégorie de freudomarxisme, mais simplement de dire qu'elle est totalement insuffisante à comprendre l'originalité et la nouveauté de la position élaborée par Marcuse dans Eros et civilisation. On y reviendra, mais c'est un point très important, je crois notamment en France, parce que cette réduction de Marcuse à un freudomarxisme, qui va souvent de pair aujourd'hui avec un regard un peu amusé sur Marcuse, oh, Marcuse, freudomarxisme, bon, en gros la chose est entendue et c'est une impasse, théorique, eh bien, ça a été un des vecteurs, au fond, de l'occultation de l'importance de Marcuse dans la réception française.
Oui.
Donc, je crois que c'était, enfin, il m'a semblé que c'était très important de déconstruire aussi cette catégorie de freudo-marxisme. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, reste qu'elle a quand même une certaine utilité. C'est quoi l'utilité? C'est que, bon, au fond, cette tradition freudo-marxisme, du freudo-marxisme, elle naît dans la Vienne rouge, notamment avec tout un tas d'auteurs assez oubliés ou connus du côté des milieux psychanalytiques, comme Paul Federn, par exemple, mais également, évidemment, Wilhelm Reich ou Erich Fromm. Et c'est une tradition de pensée. Bon, c'est intéressant que Freud, par exemple, à Vienne, connaissait lui-même et qu'au départ, il a très largement encouragé. Pour ces auteurs-là, il s'agit au fond de considérer, et c'est le cas des théoriciens francfortois dont fait partie Marcuse, que le matérialisme de Marx et son économicisme, d'une certaine manière, tout en étant absolument déterminant, est également insuffisant. Justement parce qu'il ne permet pas de rendre compte des processus psychiques d'adhésion et parfois même de désir de forme autoritaire de pouvoir. Et donc, en contexte de fascisation avancée à la fin des années 20 en Allemagne, pour tous ces auteurs francfortois, c'était une évidence qu'il fallait combiner les approches de ces deux matérialismes que sont donc ceux de Marx et celui de Freud. Alors, maintenant, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne sur l'insuffisance, cette catégorie à propos d'Eros et civilisation.
Oui, on peut. Alors peut-être juste sur le désir quand même. Qu'est-ce qui se joue précisément autour du désir? En quoi finalement est-ce que grâce à Freud, on va enrichir la compréhension marxiste des conditions de possibilité et de la révolution et de la réaction, quoi, puisque c'est ça, je crois, qui est en jeu.
Oui, alors le désir, bon, en termes psychanalytiques, le désir, c'est quelque chose de très, très ambivalent. C'est ce que Freud appelle la libido, et c'est quelque chose qui n'est pas en soi positif, je veux dire, ni chez Freud, ni pour Marcuse. Le désir est quelque chose qui peut participer, au contraire, de logique, justement, de fascisation. Freud le savait particulièrement bien, lui qui... au fond, dans Au-delà du principe de plaisir en 1920, et dans son texte Malaise dans la civilisation en 1929. Bon, donc, bon, c'est plutôt une réflexion très inquiète aussi sur la capacité du désir à désirer justement un peu cette domination, à désirer ce qui nous opprime, à désirer ce qui justement participe de notre propre domination. Mais.
C'est presque une, mais ça fait écho aussi. Alors la référence est plus lointaine, mais il y a presque une histoire de servitude volontaire aussi là-dedans, quoi. Enfin, ça fait penser à la Boétie et cette façon dont on peut farouchement, enfin le plus viscéralement du monde, désirer quelque chose qui va contre nos intérêts, quoi. Et par exemple désirer ou s'identifier même à un tyran qui ne sert que lui-même. Enfin, c'est vrai que là il y a quelque chose qui touche à l'intime, au psychique, et qui a une dimension... vous parliez d'adhésion, oui, c'est ça la question, comment on adhère à la révolution, comment on adhère au fascisme. Pour répondre à cette question, il faut plonger quand même dans la psyché, quoi.
Voilà, et alors, tout à fait, et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ce terme de servitude volontaire de la Boétie, Marcuse lui-même l'emploie assez régulièrement. D'accord. Donc c'est précisément ce problème-là qui a aussi été formulé par Spinoza et d'autres. Hein, mais cette question qui est de savoir, au fond, pourquoi est-ce qu'on désire avec autant de passion et de ferveur ce qui participe de notre propre domination? Donc ça, c'est effectivement le questionnement que reprend à son compte Marcuse et qu'il va au fond dans Eros et civilisation traiter principalement dans la première partie, qui est vraiment une première partie sur la domination du principe de réalité, ce qu'il appelle la domination du principe de réalité. Donc c'est une relecture assez subversive de Freud. Mais ce qui est intéressant...
C'est là qu'il introduit la notion de principe de performance, c'est ça, qui est
absolument
au cœur de la dynamique capitaliste.
Absolument. Alors, en fait, cette première partie, bon, dans ce livre organisé en trois temps, il y a une première partie qui est vraiment une relecture interne de Freud, une relecture très serrée.
Des textes que vous mentionnez, Au-delà du principe de plaisir, Malaise dans la civilisation.
Oui, qui sont vraiment les deux textes, au fond, que travaille Marcuse, mais de manière, encore une fois, très subversive. Puisque l'argument de Marcuse est de dire que dans Malaise dans la civilisation, Freud a cherché à rendre compte du renoncement pulsionnel, donc notamment du renoncement à ces pulsions que sont les pulsions d'agressivité et de désir sexuel, que ce renoncement pulsionnel est au fond nécessaire au développement de la civilisation. Et Au fond, ce que Marcuse va lui objecter, c'est de ne pas avoir suffisamment historicisé cette histoire et d'avoir, au fond, manqué cette rupture historique qui correspond en fait, alors là c'est là que Marcuse est marxiste, qui correspond au fait que certes la civilisation, le développement de la civilisation suppose un renoncement pulsionnel.
Donc un principe de réalité.
Donc un principe de réalité, mais qu'une fois atteint ce qu'il appelle lui-même le stade de l'abondance, grâce au progrès technologique et notamment à l'automatisme et au machinisme, ce renoncement pulsionnel n'est plus nécessaire. Mmh. Et là, on arrive à ce qu'il appelle une surrépression qui est donc nécessaire à ce principe de performance qui est la forme, dit-il, spécifique, historique, propre au principe de réalité dans les sociétés modernes où le principe de réalité vise en réalité essentiellement au maintien de la domination sociale et à l'accroissement permanent du gain, enfin une logique de concurrence.
Mais alors je vous interromps parce que je veux être sûr de bien comprendre et qu'on fasse pas dire, qu'on laisse pas penser que Marcuse aurait dit des choses qui ne sont pas dans son texte. Mais son idée, et vous me corrigez du coup si je me trompe, mais c'est que dans une société, je ne sais pas s'il l'appelle société communiste ou en tout cas dans une société post-capitaliste, ce qui est atteignable, c'est pas l'abolition du principe de réalité, parce que ça, il y a toujours une certaine répression nécessaire des pulsions, de pulsions destructrices, agressives, etc. Mais c'est par contre ce qui est atteignable, c'est l'abolition du principe de performance, qui est bien une forme spécifique, historique et donc dépassable du principe de réalité, qui est celle du principe de réalité en régime capitaliste.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un point extrêmement important. Enfin, en fait, tout l'argument central de Marcuse se concentre là-dedans. Et c'est là qu'on rate, je crois, complètement les choses quand on réduit simplement Marcuse, à un freudo-marxiste, comme a tendu par exemple à le faire quelqu'un comme Michel Foucault, en le confondant avec Reich notamment. Oui. Parce qu'en réalité, Marcuse critique très clairement Reich pour avoir confondu tout ça. Pour Marcuse, la répression en tant que telle, n'est pas dépassable. Oui. Il y a des formes de sublimation qui sont répressives, d'autres qui sont absolument non répressives et même libératrices. Ce qu'il considère comme libérateur, à la différence de Reich, et il le dit très clairement dans la postface, ce n'est pas la libération sexuelle, en tout cas de la sexualité entendue en un sens purement génital. Il voit là quelque chose d'extrêmement dangereux, et d'autant plus dangereux qu'il avait très bien repéré dans l'Allemagne nazie la manière dont une certaine libération sexuelle, loin de participer d'une libération sociale et individuelle, participait au contraire d'un enrichissement très puissant.
En quel sens, comment concrètement la libération sexuelle peut accompagner une forme d'enrichissement?
Alors, Marcuse découvre ça et analyse ça dans un texte de 1942 qui s'appelle « La nouvelle mentalité allemande », mais aussi un petit peu dans l'individu et l'État sous le national-socialisme. Et il l'analyse aussi très clairement dans l'homme unidimensionnel à travers la notion cardinale de désublimation répressive.
Donc il faut expliquer là.
Donc désublimation répressive, peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps de développer sur l'Allemagne nazie parce que c'est assez complexe, mais enfin il repère à travers son analyse de l'actualité, de tout ce qu'il apprend sur les modes de vie des Allemands et notamment une certaine célébration de la sexualité, de la liberté sexuelle, enfin une critique de la moralité, d'un puritanisme, etc. Lui pose très clairement la question, peut-être d'ailleurs déjà dans une discussion critique avec Reich, de dire en réalité, est-ce que ça c'est la libération? Évidemment, la réponse est non, parce que Marcuse voit très bien que ça va de pair avec à la fois une stratégie de compensation, c'est-à-dire en l'échange d'une liberté politique et critique, on obtient quelque chose comme une liberté qui est d'ordre sexuel. Mais il y a aussi, par ailleurs, une politique démographique dans l'Allemagne nazie qui va de pair avec cet encouragement à ne pas simplement cantonner la sexualité dans la famille monogame. Dans la société de consommation, qui est le contexte historique dans lequel Marcuse écrit Eros et civilisation et l'homme unidimensionnel, les choses sont très différentes. Mais il repère à nouveau ce même phénomène, de ce qu'il va appeler donc la désublimation répressive, formule assez géniale. C'est-à-dire, au fond, cette idée que, la sublimation, c'est plus vraiment d'actualité. le désir sexuel, la... au contraire, il est célébré. Je veux dire, il y a toute cette, cette célébration sociale du sexy, d'une sexualité épanouie, voire débridée, etc. Bon, c'est plus du tout quelque chose de problématique socialement. Et Marcuse voit très bien que, loin de libérer les individus, et il le redira à nouveau au moment des mouvements contestataires des 60s, hein, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre d'un piège. Parce qu'on retrouve ce mécanisme qu'il avait donc analysé sous l'Allemagne nazie, ce mécanisme de compensation à la fois psychique, mais qui se joue sur le terrain du plaisir, qui est donc un ressort extrêmement puissant. Ouais. Et ce n'est pas que simplement la sexualité, c'est la consommation. C'est ce qu'il appelle, au fond, un mode de vie tout entier organisé autour de la consommation, du plaisir. Des loisirs abrutissants. Enfin, bon, donc, pour lui, dans tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un plaisir et même d'un désir, mais qui est très, très loin d'être libérateur.
Et dans Héros et civilisation, je reste sur ce livre parce que donc il y a ce que vous dites là sur le désir et le plaisir, mais il y a toute une réflexion aussi sur la dimension esthétique de la Révolution. Il convoque André Breton, les surréalistes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui l'intéresse là-dedans et ce qu'il cherche à mettre en avant, parce que ce n'est pas forcément ça non plus qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on envisage la Révolution comme le fascisme d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment la dimension très originale et nouvelle hein, de Héros et civilisation et ce qui fait tout son intérêt et son actualité. Alors, pour la comprendre, je crois qu'il faut revenir un petit peu à la structure de cet ouvrage qui est assez complexe, avec donc une première partie qui est une relecture de l'œuvre de Malaise dans la civilisation, disons, de Freud. Ensuite, un intermède philosophique dans lequel il y a vraiment une critique de la société contemporaine. Bon, un livre écrit aux États-Unis, dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la grande accélération, la naissance des sociétés de consommation. Mais aussi une réflexion qui passe par un détour par l'histoire de la philosophie, qui vise à comprendre un petit peu, comme chez Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, comprendre au fond les fondements de la domination sociale et capitaliste et le faire en revenant finalement à l'histoire de la philosophie et à la mise en opposition permanente depuis Platon notamment, enfin bon, il retrace toute une histoire de la mise en opposition entre raison et sensibilité, raison et plaisir, raison et imagination. Et le deuxième volet de ce livre, la deuxième partie, Au-delà du principe de réalité, en réponse au titre de Freud, Au-delà du principe de plaisir, eh bien, est ce que moi j'ai appelé un noyau utopique qui est effectivement assez étrange. Et je crois que pour comprendre ce second volet, où effectivement il va proposer cette fois quelque chose de très différent, qui est une nouvelle réflexion, une nouvelle conception de la raison, et poser d'une certaine manière qu'on ne saurait envisager la révolution autrement qu'en réfléchissant à la fois à ces conditions métapsychologiques, mais également en reprenant justement ou en récusant radicalement toutes ces oppositions, tous ces dualismes pour parvenir à ce qu'il appelle une conception élargie de la raison comme satisfaction, comme logique de la satisfaction.
Une raison du coup qui se reconnecte à l'imagination et presque une forme de rationalité sensible, c'est ça ?
Exactement, une rationalité sensible, une raison. Alors, par rapport à cette question de la raison sensible ou de la raison élargie et précisément qui n'est plus en opposition à la sensibilité et à l'imagination, tout comme dans un dépassement du principe de performance, eh bien, le principe de réalité ne serait plus opposé au principe de plaisir, il ne serait pas éradiqué,
non,
évidemment pas, mais il serait réconcilié avec le principe de plaisir, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus subtil, de même d'ailleurs qu'Eros et Thanatos ne sont pas tant, enfin bon, il s'agit d'une réconciliation. Ce qui est ici important d'un point de vue effectivement philosophique et très étonnant, très bon, c'est qu'en fait ici Marcuse procède en surréaliste et je crois que cette seconde partie, il est intéressant vraiment de la lire comme un collage surréaliste, c'est-à-dire que il y a quelque chose comme un dédale de références dans lesquelles il est assez facile d'ailleurs de se perdre, qui vont d'auteurs comme Schiller et Kant jusqu'à effectivement Breton, Blanchot, Fourier. Bon. Et qu'est-ce qu'il cherche à penser à travers tous ces auteurs? Ben, c'est à chaque fois, justement, cette manière de faire droit à une nouvelle conception de la raison, qui n'est pas simplement la raison pratique avec Kant, mais ce que Kant a lui-même cherché à penser dans la critique du jugement, quoi. C'est-à-dire que c'est une raison qui participe, qui est entièrement en lien avec l'imagination, avec la sensibilité, dans sa propre puissance révolutionnaire, dans sa propre puissance politique.
Là, du coup, donc, on était sur Eros et Civilisation, on est en 1955, c'est des années, vous l'avez dit, qui sont des années vous avez caractérisé ça, de grande accélération, c'est la société de consommation qui se met en place, c'est le début des 30 Glorieuses. Marcuse, à vous lire, on comprend que c'est quelqu'un qui est très en prise avec son temps, mais qui s'est aussi toujours posé la question du diagnostic historique, on pourrait dire, quoi, cette question un peu classique, mais que tout philosophe ne se pose pas. En quel temps vivons-nous, en fait? Et qu'est-ce que les spécificités de ce temps imposent ou exigent de moi en tant que philosophe? Ça, j'ai le sentiment, à vous lire, que c'est vraiment une préoccupation forte et permanente chez lui, vous confirmez?
Absolument, oui, absolument.
Et donc, dans les années... Comment est-ce que... Parce qu'il y a quand même un tournant qui s'opère dans les années 60, les 6-6, justement, un tournant tant au niveau... du contexte sociopolitique avec l'émergence de nouvelles luttes, mais un tournant aussi dans sa pensée lui-même. Est-ce que vous pouvez nous dire comment un peu lui perçoit ces années 1960, prolongées, hein, quand on dit 1960, on comprend que ça va jusqu'aux années 70, voilà. Comment lui perçoit cette période, qu'est-ce qui bouge selon lui, et aussi du coup, pardon, ça fait une question assez large, mais qu'est-ce que ça entraîne comme modification au niveau de son propre agenda intellectuel?
Alors il y a plusieurs choses, effectivement. La première, c'est cette idée de diagnostic historique qui est, comme on le sait, une des marques propres du courant de l'école de Francfort. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le sens même et la fonction même de la philosophie sociale telle que définie déjà par Max Horkheimer, par exemple. Bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rattache très clairement Marcuse à ce courant de pensée. Avec cette spécificité quand même peut-être chez Marcuse d'être au fond un auteur qui, d'une certaine manière, sans être optimiste, on y reviendra peut-être, mais à aucun moment il est optimiste en réalité, mais un auteur qui ne renonce absolument pas à quelque chose de l'ordre d'une possibilité réelle de la révolution, possibilité réelle de l'émancipation, à une dimension utopique. Bon.
Ouais.
Et la deuxième différence peut-être, c'est également, je l'ai déjà dit, mais... le caractère extrêmement engagé de la pensée de Marcuse à partir des années 60.
Oui.
Alors évidemment, on pourrait dire qu'il a toujours été engagé, c'est évident, mais disons qu'il y a quelque chose comme un renouage de la théorie et de la pratique qui s'opère dans la seconde moitié des années 60 et qui chez Marcuse va notamment se manifester par le fait que, on vient de le dire, je veux dire, dans Eros et Civilisation, les références de Marcuse sont des références purement théoriques.
Oui.
Il n'y a aucun...
Philosophie, littérature, psychanalyse.
Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a absolument aucune référence à un quelconque mouvement, à une quelconque pratique, à un quelconque sujet révolutionnaire. Bon, depuis bien longtemps, pour les Francfortois, il est clair que le prolétariat, censé être le sujet de la révolution... n'est absolument plus un sujet révolutionnaire. Donc il n'y a pas ça, mais il n'y a rien. Il y a une espèce de vide.
C'est pas sa question.
Voilà, c'est pas que c'est pas la question, c'est plutôt qu'il n'identifie pas de... Il n'y a pas de sujet révolutionnaire identifiable pour Marcuse au début des années 50. Les choses vont complètement changer, effectivement, dans la décennie suivante et notamment dans la seconde moitié des années 60, à partir de l'essor vraiment sur le devant de la scène du mouvement étudiant, mais aussi du mouvement de décolonisation. Enfin, Marcuse, dès le début des années 60, défend tous ces mouvements. Il écrit des textes importants, il soutient le mouvement étudiant, le mouvement aussi des droits civiques, etc. Mais il y a une bascule qui s'opère vraiment en 67. Mm-hmm. C'est vraiment le moment d'ailleurs où Marcuse devient un auteur mondialement connu et mondialement détesté d'ailleurs par un certain nombre de figures et de mouvements, notamment conservateurs. Et Marcuse va effectivement lui-même se transformer complètement au contact de ces luttes. Alors ça, c'est un point intéressant.
En s'en faisant, en quelque sorte, alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais enfin, l'intellectuel organique, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas l'interprète sur le temps présent de la signification philosophique et politique de ces luttes, quoi. On pourrait dire
oui,
quelque chose comme ça.
Oui, l'interprète, c'est une, je trouve que c'est une formule, enfin, c'est un terme intéressant, à pas mal de niveaux d'ailleurs, même,
oui.
En freudien.
Oui, non,
Non, non, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il est, il interprète, mais aussi au sens où il cherche oui. à penser les ambivalences, les contradictions, les insuffisances, les inconscients, mm-hmm. etc. Et interprète aussi au sens où, au fond, Marcou, c'est ça qui me plaît beaucoup chez cet auteur, c'est quelqu'un qui va élaborer toute sa propre interprétation, justement, des événements au contact même des acteurs, et oui. notamment des étudiants.
Oui. Il va à leur rencontre. Il n'est pas enfermé dans sa bibliothèque,
voilà,
ou sa tour d'ivoire, ou que sais-je.
Pour une petite anecdote, bon, je sais pas. André Weinberg me disait un jour, qui est un ancien étudiant et un philosophe important de la technique aujourd'hui, me disait que le bureau de Marcuse était toujours ouvert, quoi, que c'était quelqu'un qui était toujours disposé à discuter politique, philosophie avec ses étudiants.
Ouais.
Il s'est engagé, il a défendu publiquement Angela Davis, etc. Bon.
Qui a été une de ses étudiantes.
Et une de ses étudiantes également. Et donc Marcuse, c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant et important, je crois, vraiment à comprendre, parce que encore aujourd'hui, bien souvent, les gens ont en tête Marcuse comme une sorte, alors là, on pourrait utiliser plein de qualificatifs,
ouais.
mais de père, de gourou, de maître à penser,
de précurseur,
etc. Et toutes ces catégories sont extrêmement problématiques.
Ouais.
Problématiques à plein de niveaux, mm-hmm. mais au moins problématiques parce que, comme l'avait très clairement dit Marcuse lui-même, s'il y a bien quelque chose dont la gauche et la nouvelle gauche n'a pas besoin, c'est d'une nouvelle figure de papa.
Certes.
Donc, il se refusait complètement à s'identifier rôle. à cette position de père. Donc, Marcuse discute, voilà.
Ouais.
C'est vraiment une position de co-construction, je dirais,
mm-hmm.
Mais aussi de distance critique. Marcuse…
Oui. Et justement, alors, allons peut-être commençons par ça, puis après on verra ce qu'il trouve de bien dans ces luttes. Mais la distance critique, c'est peut-être ça d'ailleurs le plus intéressant, sachant, on a bien compris qu'il était en affinité avec ses luttes étudiantes et anti-impérialiste aussi, féministe, j'imagine, enfin, ses luttes de l'époque. Quels sont les points, disons, de vigilance de sa part concernant, vous avez dit des insuffisances ou même des contradictions.
Oui. Alors là, il y a vraiment, je crois, effectivement quelque chose qui d'emblée chez Marcuse est de l'ordre de la très grande prudence.
Mm-hmm.
Certes, il est extrêmement enthousiaste d'observer, de voir ces luttes étudiantes qui se jouent justement sur le terrain de la subjectivité. Et bon, l'idée de Marcuse dès son analyse du fascisme allemand et également dans Eros et Civilisation, c'est bien ça. C'est l'idée que toute conception purement économiciste du socialisme et de la mm-hmm. révolution est une impasse radicale, ne peut que aboutir à un nouveau monstre d'autorité.
D'accord.
Donc il est là-dessus est complètement hyper critique hein, sur les socialismes réels, Bon, mais donc ce qui l'intéresse, lui, justement, dans le mouvement étudiant notamment, c'est de voir la manière dont, au fond, on n'a pas un sujet révolutionnaire parfaitement unifié, mmh. on a des subjectivités révolutionnaires qui sont tout aussi bien les étudiants, donc les jeunes, qu'il appelle aussi les intellectuels, parce que ce sont des étudiants,
oui.
Qui défendent des problématiques écologiques, sexuelles, anticoloniales. Bon, et ce qui l'intéresse là-dedans, c'est précisément la façon dont ça se joue donc au plan vraiment de la subjectivité mmh. et de ce qu'il appelle une nouvelle anthropologie, la production d'un nouveau type d'être humain
ouais.
et la production d'une nouvelle sensibilité. Mmh. Cette nouvelle sensibilité qui, justement, n'est plus tributaire de tous ces partages de la raison et de la sensibilité, de la raison et du plaisir, qui refuse complètement l'éthique protestante ascétique du capitalisme, qui exige du plaisir au travail et donc qui refuse, au fond, toutes les formes subordonnée ou dominée de travail. Donc ça, c'est vraiment ce qui, pour Marcuse, fait toute la valeur de la New Left, d'avoir saisi la dimension vraiment à la fois sensible, mais également subjective et psychique de la Révolution. Ce que, en revanche, il repère également assez tôt et de plus en plus, c'est tous les pièges qui guettent de l'intérieur comme de l'extérieur cette entreprise d'une révolution qui se joue au plan de la subjectivité. Mmh. Alors, de l'extérieur, il le voit très vite, et c'est intéressant parce que bon, on connaît tous les travaux qui vont analyser ça un peu plus tard, en fait. Hein. Il y a d'abord toute cette idée de la récupération.
Oui.
Par
l'ordre capitaliste. Établi, hein. Par l'ordre capitaliste. Ouais. De la récupération de quoi?
Alors, récupération de quoi? Bah, récupération, par exemple, par la mode, par l'industrie culturelle, d'un certain style de vie, d'une certaine forme de vie chic, radical, enfin chic, je veux dire,
oui,
hippie, distingué, cool, ouais. Etc. Donc pour lui, et même, encore une fois, la fascination pour la drogue, pour la sexualité, il voit très bien que tout ça, c'est parfaitement récupérable.
Il anticipe même, on pourrait dire, en un sens, parce que là, on parle de textes qui datent des années 70. Quoi. Il voit ça à une période... Bon, il n'est pas en 2020.
Dès la fin des années 60.
Dès la fin des années 60.
Il voit aussi qu'il y a tout un tas de dangers internes, c'est-à-dire de limites internes, et qui tiennent justement... Il est extrêmement lucide, au fond, qui tiennent à la fois sur... les difficultés qui guettent toute entreprise, justement, visant à se libérer au plan de la subjectivité, parce que pour lui, s'il n'y a pas de jonction entre subjectivité et société, ou subjectivité et totalité sociale, il n'y a absolument pas de libération. Mmh. Et donc, c'est toute la question de savoir comment, quelles échelles trouver. C'est la question des institutions, au fond. Quelles institutions construire, élaborer, mettre en place pour que cette révolution au plan des formes de vie soit quelque chose qui soit réellement et socialement libérateur. Et donc au plan de...
Là, c'est l'articulation, enfin, c'est pour être sûr de comprendre, mais ce dont vous parlez, c'est de l'articulation entre l'individuel et le collectif, si je le dis autrement, qui est en jeu, quoi.
Tout à fait, c'est-à-dire, au fond, cette impossibilité d'une révolution qui se joue strictement sur le plan de la sexualité, dans la mesure où... Pour Marcuse, il y a quelque chose qui se joue nécessairement là. Mmh. Aucune révolution, à ses yeux, aucune authentique révolution ne peut faire l'impasse sur cette dimension subjective. Et c'est même, au fond, pour lui, l'essentiel. Mais pour que, justement, cette révolution au plan de la subjectivité et des formes de vie soit possible, ça suppose... la mise en œuvre d'institutions. Donc c'est toute cette question des échelles entre l'individu, la communauté, la société. Il y a aussi une deuxième impasse ou deuxième difficulté qu'il repère très tôt, dès 67 dans sa conférence « La fin de l'utopie », qui est au fond toutes les difficultés de la coalition, d'une coalition internationale. Parce que Marcuse a tout à fait conscience que aucune révolution n'est réellement possible sans être mondiale. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il dit très clairement. Ça ne peut pas s'arrêter à la communauté. Mmh. Il est assez critique, par exemple, par rapport au théoricien Murray Bookchin, par exemple, qui l'intéresse beaucoup aussi. Mais pour lui, la communauté n'est pas suffisante. Et il faut viser une dimension d'emblée, au fond, mondiale.
Donc il faut une synchronisation du coup.
Voilà, entre des subjectivités et des luttes qui se jouent sur des terrains très différents. Les étudiants, les ghettos, les mouvements de décolonisation.
D'accord, donc il y a dans un premier mouvement, on va dire, une forme de reconnaissance, et c'est bien qu'il y ait une multiplicité comme ça des luttes et des sujets. Finalement, c'est la multiplication des sujets révolutionnaires. Il n'y a plus le prolétariat, mais il y a une multiplication des luttes. Et ça, il en reconnaît l'aspect positif, mais en gardant à l'esprit, comme vous le disiez, la nécessité d'une forme d'articulation entre ces différents...
Lui utilise le terme de coalition, d'alliance, de front uni. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que ça résonne évidemment beaucoup aujourd'hui, de front uni. C'est-à-dire, mais il a conscience des difficultés qui guettent cette entreprise, parce que précisément, il y a des difficultés de culture, de langage, d'intérêt. Et il a également conscience que la classe ouvrière... reste très importante, mais simplement, c'est un diagnostic qu'il pose très tôt, dans un texte de 1947 qui s'appelle « 33 thèses », elle est totalement embourgeoisée. Bon, il parle depuis les États-Unis. Donc, il voit très, très mal la manière dont on pourrait embarquer la classe ouvrière, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les travailleurs, le monde du travail.
Ouais. Est-ce qu'il y a chez lui, parce que là vous avez parlé des luttes féministes, des luttes antiracistes, anticoloniales, est-ce qu'il y a aussi chez lui un intérêt pour les mobilisations, on va dire, environnementales, écologiques,
Absolument.
Qui se développent, il y en avait avant, mais bon, qui prennent un essor réel à cette période-là. Oui, il y a quelque chose aussi
Absolument.
Là-dedans.
Alors, là-dessus, je crois qu'il est intéressant de dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, ce n'est pas le premier. Il y a, par exemple, une autrice comme Caroline Merchant qui, un petit peu plus tôt encore, élaboré des textes très, très importants sur la question de l'écologie. On peut aussi citer à nouveau Murray Bookchin, mais c'est quand même l'un des premiers. Et ce qui est intéressant, c'est que la réflexion de Marcuse sur l'écologie, elle est originale par plusieurs aspects. Bon, il y a quelque chose qu'il partage avec ses collègues Horkheimer et Adorno, qui est l'idée d'une domination de la nature. Que le capitalisme fonctionne à la domination de la nature. Ce qui, par certains aspects, correspond, par exemple, au travail de quelqu'un comme Jason Moore sur la toile, sur la toile de la vie. Donc, il y a cette idée que le capitalisme fonctionne à la domination de la nature, étant entendu que cette nature, elle est interne, mais elle est également externe.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle nature on parle ? Interne, alors,
justement,
c'est intéressant, bah, ça, mais dites-nous ce qui...
ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette distinction entre nature interne et nature externe, on n'a pas du tout un concept de nature qui serait un concept de nature reposant sur un dualisme entre nature et culture ou nature et société. Mmh. Ici, nature interne, nature externe, c'est évidemment une dialectique. Et la nature interne, c'est l'ensemble des besoins et des pulsions de l'être humain, qui, on l'a déjà dit, peuvent être et sont tout aussi centraux et fondamentaux pour comprendre la domination que les ressorts de la révolution, d'une révolution émancipatrice.
Oui. Et donc, pardon, je vous interromps à nouveau, mais il a une conception dynamique, historique, en fait, de cette nature interne et des besoins. Enfin, ils ne sont pas figés dans l'absolu, quoi. Ouais. Ce n'est pas un naturalisme au sens essentialisant du terme.
Absolument pas. Ça, c'est extrêmement important, je crois, d'y insister. Parce que ce naturalisme, pour reprendre une catégorie qu'emploient aussi des collègues comme par exemple Frédéric Monferrand, ce naturalisme n'est pas du tout un essentialisme.
Oui, voilà.
Et là, à nouveau, il y a quelque chose qui, je crois, a vraiment été, d'une certaine manière, complètement raté ou forcé par quelqu'un comme Michel Foucault, qui critiquait l'école de Francfort pour, d'une certaine manière, cette idée d'une réappropriation d'une espèce de nature humaine éternelle, d'une essence.
Une pure nature qui a été souillée par le capitalisme, mais qui est là originellement.
Et d'une essence à l'historique. Alors que, il y a plein d'extraits de Marcuse qui dit très clairement quelque chose comme la nature humaine, ça n'existe pas. Pour lui, la nature, c'est un champ de force, un champ de capacité, de pulsion. Enfin, c'est quelque chose de complètement dynamique, qui est vraiment doté d'une plasticité.
Ouais.
Mais cette plasticité, un peu comme la perfectibilité, si on veut, chez Rousseau, c'est quelque chose qui peut être, qui est aussi inquiétant. C'est-à-dire qui peut aller dans tous
positif,
les sens.
Ouais.
Voilà, c'est pas que du positif. Donc il y a cette dimension de nature interne.
Interne, du coup, oui.
Qui permet de comprendre comment le capitalisme fonctionne sur des ressorts qui sont des ressorts d'instrumentalisation, des besoins, des désirs, création de faux besoins, de faux désirs, mais fonctionne aussi à la domination externe, c'est-à-dire fonctionne à la captation de la nature externe, c'est-à-dire des écosystèmes et de l'ensemble des vivants, comme d'un espèce de matériau illimité et inerte, qu'on pourrait comme ça exploiter sans limite, qui est évidemment au principe même du capitalisme comme de la technologie moderne. Et ce qui est intéressant, c'est que Marcuse, à partir de 70, disons, va entrer en relation avec André Gortz et va, suite à la publication en 1972 du rapport sur les limites de la croissance, prendre vraiment aussi conscience de cette problématique de l'écocide, du lien entre capitalisme et écocide, et de ce qu'il va appeler une contradiction indépassable entre capitalisme, justement, entre le capitalisme et la nature externe.
Oui. Et alors, vous venez de dire à partir des années 70, qui vont être la dernière décennie, finalement, de sa vie, mais donc aussi de sa production intellectuelle toujours foisonnante. Nous, avec le recul, désormais, c'est assez courant et presque banal de de le dire, mais les années 70, c'est déjà finalement la parenthèse qui se referme concernant la New Left, toutes les luttes dont on vient de parler à l'instant. Est-ce que lui, Marcuse, déjà ça, il le perçoit, et surtout, comment il explique cette défaite, c'est peut-être pas le terme, quoique il y a un texte, me semble-t-il, de lui que vous citez, qui s'interroge sur la défaite de la New Left. Est-ce qu'on peut parler de défaite, et surtout, voilà, comment il l'explique, parce que ça va le conduire à une réflexion cette fois-ci plutôt sur la contre-révolution qui est tout à fait passionnante.
Oui. Alors moi, c'est vrai que c'est aussi un aspect de la pensée de Marcuse, du dernier Marcuse, disons, qui m'a particulièrement intéressée parce que par ailleurs, je travaille également avec un certain nombre de collègues sur le néolibéralisme. Et j'étais extrêmement frappée de voir la manière dont, sans jamais employer la catégorie de néolibéralisme, sauf une fois comme ça. Bon, il connaît pourtant, dès les années 30, ici, des textes Faune de Mises, etc. Donc, oui. Il connaît. Mais en tous les cas, sans utiliser de manière systématique cette catégorie, et même sans l'utiliser du tout, d'une certaine manière, il entrevoit et il diagnostique un certain nombre de phénomènes qui, rétrospectivement, évidemment, se révèlent être constitutifs de la révolution néolibérale, de la contre-révolution néolibérale, plutôt, telle qu'elle s'est mise en œuvre à la fin des années 60. Et alors, lesquels, oui. Bon, alors ça, c'est quelque chose qu'il va expliquer en particulier dans son livre de 1972, Contre-révolution et révolte, où Marcuse, effectivement, diagnostique, alors non pas tant, on va peut-être y revenir, une défaite de la New Left, mais en tous les cas, au moins un écrasement immédiat. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à récupérer, au contraire. Ça ne va pas l'amener à se dire, bon, on s'est planté,
c'est fini,
c'est pas la bonne stratégie et il faut penser encore tout autre, peut-être revenir à une conception léniniste ou je ne sais quoi de la révolution. Ce n'est absolument pas le cas. Mais il entrevoit, il diagnostique un certain nombre de phénomènes qu'il va présenter vraiment comme des réponses, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, des réponses à tous ces mouvements de contestation de l'intérieur des sociétés du capitalisme français, autant que de ses marges, comme les ghettos, mais aussi le sud global. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors c'est quoi ces phénomènes? Eh bien, c'est ce qu'il appelle un... Alors il décrit toute une gamme, il y a vraiment les premières lignes de contre-révolution-révolte sont extrêmement intéressantes. C'est une description de ce phénomène de la contre-révolution, qu'il appelle aussi une contre-insurrection préventive et parfois même un fascisme préventif.
On va revenir sur ce préventif, je vous laisse.
Ouais. Qu'il décrit vraiment en montrant que ça prend toute une... Il y a toute une panoplie de formes selon les lieux. C'est-à-dire que au Chili, par exemple, c'est la dictature militaire, c'est un coup d'État. Et toutes ces différentes réponses au mouvement de contestation donne, selon lui, naissance à ce qu'il appelle ou à ce qu'il présente comme un nouvel impérialisme globaliste.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, Aude Guéguen, derrière quand vous parlez de néolibéralisme? Parce que finalement, parfois, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un terme qui a tellement fait floresse, alors certainement pour de bonnes raisons. Il décrit une réalité qui est structurante pour nos vies, nos sociétés, etc. Mais il est tellement utilisé que c'est aussi la contrepartie de son succès, c'est que je ne sais plus toujours très bien ce que chacun ou chacune met derrière quand il l'emploie. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là?
Oui, bien sûr, vous avez raison de dire que c'est un terme qui en tout cas peut être galvaudé et utilisé de manière très, 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 très différente. Donc, c'est important de récuser ou de défaire plusieurs représentations complètement erronées.
Oui.
Par exemple, que le néolibéralisme, ce serait une forme d'ultra-libéralisme, quelque chose comme un retrait de l'État, alors qu'au contraire, si on retrace tous les débats entre les néolibéraux, on voit bien qu'un des grands points d'accord entre eux, c'est vraiment la fonction de l'État fort, l'État total fort, entendu au sens de Carl Schmitt. On se plante aussi complètement à penser que le néolibéralisme est au fond quelque chose qui reste en continuité avec le libéralisme, parce que dans le libéralisme, il y a quand même quelque chose comme une valorisation d'un certain nombre de libertés politiques, notamment, ce qui n'est plus du tout le cas dans le néolibéralisme, qui, de ce point de vue-là, est un illibéralisme.
Tout à fait.
Il faut être clair. Et en tous les cas, un courant de pensée, une, type de pratique politique radicalement antidémocratique, ou en tout cas démophobique, comme on l'avait appelé dans le livre Le choix de la guerre civile avec Christian Laval, Pierre Dardot et Pierre Sauvêtre. Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? Bah oui, c'est à la fois ce projet qui commence avec quelqu'un comme Ludwig von Mises dans la Vienne rouge dans les années 1920, de repenser au fond les conditions de sauvetage, hein, de cette manière, du capitalisme, avec cette idée qu'au fond, il y a eu une erreur du libéralisme à justement ne pas suffisamment prendre conscience de l'importance du rôle de l'État, de l'État fort, entendu comme garant du marché et du jeu de la concurrence. Oui. Et donc d'un État autoritaire.
Par tous les moyens, quoi, parce que ça peut être par le droit, mais si nécessaire aussi par la force.
Voilà, d'où d'ailleurs des relations beaucoup plus compliquées qu'on ne le dit généralement entre néolibéralisme et fascisme, dans son histoire elle-même.
Oui. Et il y a un terme que vous avez utilisé, c'est celui de préventif, enfin je pense que c'est de Marcuse justement.
Fascisme préventif.
Fascisme préventif, mais ça m'intéresse qu'on développe cet aspect préventif, parce que les années 1970 soient des années de contre-révolution, ça on l'entend beaucoup, mais contre-révolution préventive et la dimension préventive du fascisme aussi, ça veut dire quoi concrètement ?
Alors, de fait, Marcuse emploie ce terme de contre-révolution ou de contre-insurrection préventive, en référence à cette contre-révolution, donc conservatrice, si on veut, qui correspond à une réponse, et donc à un moment de panique, hein, une panique face à la montée des revendications égalitaires de tous côtés, du côté à la fois du Sud global, des femmes, de la défense de l'écologie, etc. Marcuse voit très bien qu'il y a quelque chose là qui se crie, c'est-à-dire qu'il y a une réponse du capitalisme qui est une réponse qui témoigne d'une panique, hein, c'est son terme, hein, et d'une panique et donc d'une prise au sérieux de la puissance révolutionnaire du moment de toutes ces différentes luttes. Et préventif, pourquoi ? Parce que Marcuse le dit également dans les premières pages de Contre-révolution et révolte, et encore une fois, c'est ce qu'il avait diagnostiqué dès 67, en réalité, on n'a jamais eu affaire à quelque chose comme un mouvement révolutionnaire. Mmh. On avait des germes, des germes révolutionnaires, des puissances révolutionnaires, mais dont le devenir révolutionnaire supposait pour Marcuse, ou suppose, cette fameuse coalition internationale, cette capacité à faire alliance et front uni. Donc préventif, c'est en ce sens, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire, ce qui nous ramène d'ailleurs à notre propre actualité, que ce fascisme préventif, ben, ce n'est pas comme le fascisme historique des années 20 et 30. C'est-à-dire que ce n'est pas un fascisme qui est la réponse à une menace révolutionnaire imminente.
Oui.
Voilà. Pour lui, c'est très différent, précisément parce que, en tant qu'analyste très lucide sur les chances que toutes ces puissances révolutionnaires puissent s'allier et donc devenir réellement révolutionnaires, Marcuse a toujours été en fait assez prudent et même très réservé. Enfin.
Donc le contexte est quand même très différent, mais qu'est-ce qui demeure pour vous d'actualité dans la pensée ? J'ai commencé l'émission comme ça, quoi, en indiquant ce haut coefficient d'actualité. Qu'est-ce qui demeure pour vous peut-être le plus saillant et le plus pertinent dans ce que Marcuse a mis à notre disposition pour penser les défis qui sont les nôtres à l'heure qui est celle du trumpisme et plus de... qui est quand même, une forme de fascisme, ça oui, mais on n'est plus dans le néolibéralisme des années 70, plus du tout, quoi. D'ailleurs, il y a une forme de protectionnisme aussi dans le trumpisme. Quels sont les éléments, ou l'élément même, mais que vous conservez de Marcuse, qu'il faudrait faire ressortir en premier, en fait, pour nous convaincre de son...
Oui, alors, en réalité, sur le plan même de la question du fascisme, il me semble qu'il y a quelque chose qui reste de très troublant. C'est-à-dire qu'au fond, il me semble qu'on est vraiment, pour reprendre cette expression à André Gorz, nous restons vraiment les enfants de Marcuse. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, il y a un legs politique qui n'a pas été accompli. Voilà. Et cet inaccomplissement du legs, de la stratégie marcousienne, de ce qui pour lui me semble vraiment la tâche... urgentissime même de la gauche aujourd'hui, à l'échelle française comme à l'échelle internationale. C'est-à-dire penser les conditions des alliances et les penser sur le plan des contre-institutions. C'est le terme qu'utilise Marcuse. Donc être capable de mettre en place des institutions, des contre-institutions, des formes d'alliances, des formes de coopération, enfin, qui permettent de donner justement une chance à toutes ces énergies de sortir de la pure diffraction, voire même parfois de la pure et simple opposition.
Oui. Et sur cette histoire de la récupération des revendications, des mots d'ordre, des luttes de cette période, est-ce que Marcuse pousse la réflexion jusqu'à penser des garde-fous, des façons de s'immuniser, je ne sais pas si on peut s'immuniser, mais en tout cas de prévenir la récupération dont les certains mots d'ordre, certaines luttes pourraient être réintégrées comme ça dans l'ordre capitaliste?
Oui, absolument. En fait, c'est même en réalité vraiment une préoccupation constante de Marcuse, justement, dès la fin des années 60, et notamment à propos de la question de l'écologie, dont il voit très bien qu'elle commence finalement à rentrer dans les institutions parlementaires, enfin, qu'il y a tout un tas de lobbying et ça qui... Au fond, c'est un auteur qui est très, très méfiant par rapport à tous les rouages de la démocratie parlementaire libérale.
Oui.
Donc, pour qui l'importance est vraiment, d'une certaine manière, de rester à l'extérieur et d'être, encore une fois, dans ces contre-institutions. Je pense qu'on pourrait aussi peut-être aller chercher une réponse du côté, chez Marcuse, du côté vraiment à nouveau de toute la dimension de la subjectivité et du psychisme. C'est-à-dire... il y a quelque chose pour lui qui doit à nouveau se jouer dans un refus de toute forme de domination. Donc, par exemple, prendre un exemple très, très simple, mais toute cette question du féminisme, si elle est récupérée, c'est forcément, comme elle l'a été d'ailleurs parce qu'on a appelé le libéralisme de progressiste ou de gauche, même si c'est une drôle d'expression, mais au fond, toutes ces récupérations de motifs comme ceux du féminisme sont des récupérations qui ne peuvent aller de pair qu'avec une acceptation de la logique d'ensemble, de la totalité sociale capitaliste, c'est-à-dire de sa dimension d'exploitation, de sa dimension de performance, etc., etc. Donc au fond, pour Marcuse, le garde-fou, il est peut-être là d'abord. Il est peut-être dans cette dimension vraiment aussi psychique et subjective, du grand refus, de ce que Marcuse appelait le grand refus, justement le grand refus d'un monde basé sur cet individualisme concurrentiel visant à s'insérer dans le jeu de la compétition, disons.
Et l'horizon révolutionnaire, parce que vous disiez au début de l'émission que finalement il n'avait jamais lâché là-dessus, mais qu'une lutte pour être fidèle, en tout cas déployer pleinement son potentiel, elle doit s'arrimer à la question de la révolution.
Il n'est absolument pas sur un horizon réformiste. Ouais. D'ailleurs, son différent ou sa différence par rapport à un auteur comme André Gortz. Il est vraiment sur un horizon révolutionnaire. Et c'est un auteur qui reprend très souvent cette formule de socialisme ou barbarie.
Oui.
Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt dire... en reprenant ce terme à Michael Lewis, éco-socialisme ou barbarie, pour ce qui concerne de la pensée de Marcuse.
Ouais.
C'est évidemment un socialisme qui prend acte de l'importance qu'il y a à revoir complètement les modes de production, à revoir complètement ce qu'il appelait lui-même les standards de vie. Bon, au fond, c'est un penseur de la décroissance, Marcuse, même si c'est un terme qu'il n'utilise pas.
Écoutez, j'espère que ce livre aura les effets philosophiques, politiques et stratégiques escomptés. Et je vous remercie à nouveau, Aude, d'être venue en parler hors série. Et je le recommande chaleureusement parce qu'il est vraiment très bien construit, très bien écrit et il donne envie. Et je trouve que c'est la principale qualité de ce type de livre, de revenir au texte même, à la source, pour aller y voir. Merci encore.
Merci beaucoup, Manuel.